Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage, je vous propose de vous pencher sur votre écriture. Qu'elle soit inclinée, espacée, petite ou arrondie, il semble que notre écriture soit le reflet de notre caractère, de notre émotion du moment. En ce sens, les graphologues qui étudient votre écriture peuvent déterminer vos points forts et vos faiblesses. Notre invité dans cette émission est graphologue spécialisée dans l'expression corporelle et tout ce qui concerne également le langage écrit. Elle aide les enfants et les jeunes adultes à retrouver une certaine estime de soi et à recouvrir une écriture plus sereine. Denise Berthet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous avez exercé au Centre médico-psychopédagogique de Grenoble, après des formations sur Paris. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. L'enfant et l'écriture, manuel d'apprentissage de l'écriture, le graphisme enchantant, on en parlera au cours de cette émission, aux éditions Belin, publiées en 2008. Et puis le dernier, leur écriture les trahit, comment les aider dans leur parcours scolaire, sorti en avril 2010, également chez Belin. C'est sur ce dernier livre que je me suis appuyée pour préparer en partie cette émission. Denise Berthet, qu'est-ce qu'écrire mal ?
Alors, écrire mal ou avoir le mal d'écrire ? On donne des jugements, écrire mal, qui dévalorisent beaucoup l'enfant ou l'adolescent. Et c'est en général avoir une écriture qui n'est pas lisible ou une écriture qui est lente. Alors, elle provoque des douleurs, soit au poignet, soit au doigt, soit à l'épaule, et quelquefois jusqu'au sternum, c'est-à-dire ils ont du mal à respirer. Donc là, c'est le mal d'écrire. Alors c'est à la fois une difficulté physique et c'est en même temps psychosomatique. Il y a une difficulté psychologique parce que les parents s'inquiètent, ils voient qu'il écrit dans certains cas de façon illisible ou dans certains cas il ne suit pas parce que c'est trop lent, donc il y a un risque d'échec. Et à ce moment-là, il y a une inquiétude qui pèse sur celui qui a des difficultés. Ensuite, lui-même, il voit son écriture, et cette écriture ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il voudrait être. Parce que l'écriture, c'est le « qui suis-je ?». C'est directement mon écriture qui me parle, et qui dit ce que je suis dans mon être social, comment je me présente dans les formes, comment je me présente dans l'organisation de la page. Mais surtout, l'écriture, c'est le trait. Alors, qu'est-ce que c'est que le trait ? C'est la pression exercée par l'instrument, l'ancrage. Et dans le trait, il y a l'essence de l'être. Et Fabienne Verdier, qui est restée 10 ans en Chine, Fabienne Verdier a dit que l'écriture, c'est l'ossature, c'est la chair, c'est l'énergie vitale. Donc, on peut dire que toute notre énergie est concentrée, condensée dans le trait. Et le petit enfant, il commence à gribouiller. Et le gribouillis, c'est le moyen qu'a l'enfant de parler, c'est le moyen qu'a l'enfant de dire son « je suis ». C'est pour ça que c'est très important de laisser gribouiller les enfants. Soit il y a beaucoup de force vitale, soit il est très appuyé, soit il est léger. Alors que veut dire cette légèreté ? Beaucoup de choses, hein ? Et puis quelquefois ça change d'abord, au début c'est léger, léger parce qu'il a peur, il n'ose pas, et puis tout d'un coup ça va être très très fort. Quelquefois, c'est la colère qui va passer, c'est les oppositions, mais c'est bien que tout ça s'exprime.
Ce sont les émotions qui passent à travers le trait.
Les émotions passent à travers le trait, oui. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je fais faire, moi, du mime graphique. Et on voit dans mon dernier livre, L'écriture les trahit, le petit garçon, Paco, il exprime sa colère dans un mime graphique. C'est-à-dire, à ce moment-là, je dis, tu fais des traits, fais un trait. Ça passe dans le trait, ce n'est pas des formes, là. Donc, c'est vraiment l'essence de l'être. Et c'est toute l'énergie vitale qui va, à ce moment-là, être parlante et puis exercer sa force.
Vous prenez des enfants sous votre aile et des jeunes adultes également pour leur apprendre à mieux maîtriser leur écriture. Quelle est l'origine de ce mal d'écrire ou l'origine d'écrire mal ? Quelle est l'origine de ça ?
Quelle est l'origine ? Elles sont très diverses, les causes. Elles sont très diverses et puis il y a des crispations. D'où viennent ces crispations ? Quand ils sont petits, quand on reçoit un enfant de 5 ans, et qu'on me dit « il est très crispé ». Mais je dis « mais ce n'est pas l'heure de le faire écrire. Il n'est pas prêt. Donc, si on le fait écrire, c'est une erreur. Parce qu'il est trop crispé, il ne peut pas. Et il va se dégoûter de l'écriture. Et même, quelquefois, se dégoûter du dessin. parce que le crayon devient cet instrument qui est pour lui désagréable. Alors que c'est le moment, au contraire, comme je disais tout à l'heure, de gribouiller. Et j'ai reçu une petite fille, Sandrine, qui, selon les enseignants, avait des problèmes parce qu'elle ne voulait pas écrire à 5 ans, elle ne voulait plus dessiner. Alors donc, j'ai reçu cette petite fille et j'ai vu, avec les tests de forme, les tests de bébé Mandaire, qu'elle n'avait pas les possibilités d'écrire. Elle était très intelligente, elle avait parlé couramment à 18 mois, mais elle n'avait pas un retard, elle avait son âge, 5 ans, elle n'avait pas l'âge de 6 ans. Et donc, j'ai dit à la maman, elle n'a pas l'âge d'écrire. Et je lui ai dit, vous allez voir, est-ce qu'elle aime chanter? Alors, la maman me dit, oui. Alors, je dis, bon, ben, tu viens avec moi, on va écouter le CD. Et donc, je lui ai fait écouter le CD du livre Le graphisme en chantant, et je lui faisais les gestes en même temps, les gestes qui sont les graphismes, je lui montrais dans l'espace. Et alors, elle me dit, je veux te faire un dessin. J'ai dit à la maman, voyez, il faut la laisser vivre. Alors, elle a voulu faire un dessin à la maman, vous savez, elle fait toujours les mêmes choses. Bon, alors je dis, on va voir. Alors elle vient, elle me fait des montagnes et un soleil. Alors je dis à la maman, mais c'est très bien. Et puis, on devait se revoir la fois suivante pour pouvoir échanger, pour voir à partir des tests que j'avais fait passer, de faire une interprétation plus précise. Et quand elle est revenue, à peine est-elle rentrée, elle m'a dit, je vais te faire un dessin. Alors j'ai dit, bah écoute, c'est très bien, elle me fait un dessin très riche. Je vais vers la maman et je lui dis, mais vous savez, c'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Oh oui, depuis qu'elle vous a vu, elle dit à tout le monde, Madame Berthet a dit de me laisser vivre. Et à partir de ce moment-là...
De la bouche d'un enfant de 5 ans.
Voilà. Donc elle a repris le crayon, elle a dessiné, elle n'a pas eu de problème.
Donc c'est une question graphomoteur, c'est-à-dire que les enfants trop jeunes n'ont pas l'énergie du poignet et du doigt pour pouvoir
écrire.
Tout à fait.
Exactement, c'est ça. Il y a une maturation physiologique qui n'est pas prête. Donc il faut d'abord, pour qu'un enfant puisse écrire, il y a tout un ensemble de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Donc il faut qu'il puisse avoir une motricité globale, une motricité fine, suffisante. Il faut qu'il ait un développement perceptivo-moteur aussi, donc la perception visuelle, la perception auditive, la perception tactile. Tout ça doit être développé suffisamment par des tas d'exercices qui sont en fait des jeux et qui permettent d'aider l'enfant. Et puis, il faut développer les mouvements de flexion-extension à partir d'une tige de bambou, je l'explique ça, à partir d'un crayon, on verra, avec Sion le bois tout à l'heure. Donc l'enfant, il est prêt. À un moment, il est prêt pour écrire et il aime écrire. Mais quand il est bloqué comme ça, ou quand on l'oblige à écrire, il se crispe et les crispations vont être très longues à disparaître. Ensuite, non seulement les crispations, mais il prend de mauvaises habitudes. Parce que la calligraphie, c'est à des lois. Les lois calligraphiques, ça comporte pour chaque lettre un sens. Un sens kinesthésique, c'est-à-dire le sens du mouvement. On ne fait pas dans n'importe quel sens un L, on ne le fait pas à l'envers, on ne fait pas un T en trois morceaux, il faut qu'il y ait une liaison. Donc, si les lettres sont mal faites, l'enfant aura pris une mauvaise habitude et il faut savoir qu'il faut 7 fois plus de temps pour perdre une mauvaise habitude que pour en acquérir une bonne. Donc, il faut prendre le temps d'acquérir de bonnes habitudes. Donc, il faut attendre que l'enfant soit prêt. C'est pareil pour tout ce qu'on lui fait faire, tout ce qu'on lui fait tenir, le crayon. S'il tient mal son crayon quand il débute, il aura pris l'habitude d'une mauvaise position. Et c'est pareil pour les positions du corps, parce que l'enfant travaille plusieurs phases pour écrire. La phase pré-calligraphique, qui est de 6 à 9, 10 ans. Donc à ce moment-là, on est forcément très tolérant avec l'enfant, parce qu'il n'a pas terminé son évolution. Il a du mal à tenir la ligne droite, il a du mal à s'organiser, et il a encore besoin d'être entraîné. Il a besoin de se tenir au bureau, d'appuyer son buste au bureau, parce qu'il n'a pas la tonicité encore suffisante. Après le deuxième stade, 11-12 ans, à ce moment-là, ce qu'on appelle la phase calligraphique, il n'a plus besoin de l'appui du bureau. Et lorsqu'il arrive à la troisième, la phase post-calligraphique, il peut ouvrir le coude. Donc il y a un glissé de main qui est meilleur. Et j'ai donc aidé des jeunes adultes, c'est-à-dire des étudiants en maths sup, maths spé, des jeunes qui avaient échoué au CAPES à cause de l'écriture. Et je me souviens d'un garçon qui avait donc échoué au CAPES et je lui montre comment il fallait tenir. C'était un droitier. Il fallait qu'il appuie, le poids de son corps soit plus du côté gauche pour tenir la feuille et qu'il ouvre le coude pour faire glisser les boucles. On recommence avec un adulte, avec les boucles. Et alors il m'interrompt, il me dit « Mais ça c'est rien du tout, c'est drôlement bien. Pourquoi on ne nous a pas appris ça ?» Donc vous voyez, il avait découvert quelque chose qui était essentiel et qu'on doit apprendre. C'est pour ça qu'il faudrait que les apprentissages soient poursuivis tout le primaire, c'est-à-dire qu'on tienne compte que l'enfant n'a pas terminé son stade d'évolution.
Est-ce que les exercices d'écriture à l'école primaire sont intéressants en ce sens ou est-ce que ce n'est qu'une répétition qui n'apporte pas forcément des éléments pour l'enfant pour pouvoir bien écrire ?
Oui, non. Les exercices proprement d'écriture, ça ne sert pas à grand-chose si on ne précède pas d'exercices pré-graphiques. Mais si on prend l'écriture, il faut vraiment qu'il sache, qu'il connaisse la calligraphie. Il faut vraiment qu'on revienne à la calligraphie s'ils ne la connaissent pas. Parce que s'ils l'ont bien appris, effectivement, ils peuvent continuer. Et à ce moment-là, on peut leur dicter une phrase. Et on va voir comment ils la font. Mais ça ne peut se faire que si il y a eu précédemment une calligraphie bien apprise.
Alors, dans votre livre, vous parlez de ces élèves, de ces patients. Est-ce que d'ailleurs, vous utilisez le terme de patient quand vous recevez des enfants ?
Moi, non, personnellement, non. Mais enfin, je sais que ça s'emploie.
Alors, quand vous recevez ces élèves, vous en parlez très bien dans votre livre.
Je n'étais pas élève non plus, mais enfin.
Bon. Quand vous recevez ces enfants dans votre livre, vous l'expliquez, leur écriture les trahit. Il y a des mots qui reviennent très régulièrement, c'est confiance, amour, estime de soi. Est-ce que ceux qui rencontrent des difficultés dans l'écriture... Est-ce que ces personnes-là ont une mauvaise image d'eux ?
Ils ont une mauvaise image d'eux, étant donné que l'écriture leur dit que ça ne va pas comme ils voudraient. Donc ils ont ce reflet des formes qui sont laides, selon eux, et qui ne correspondent pas à une écriture aisée. C'est-à-dire, il y a des cabossages, il y a des traits qui ne sont pas droits, il y a une mauvaise organisation de la page, il y a une ligne qui n'est pas très bien suivie. Donc ça donne tout un ensemble qui n'est pas agréable à l'œil. Et ils sont assez intelligents pour se rendre compte. Et puis pour comparer avec les autres et voir que c'est moins beau que les autres. Donc il y en a un qui disait « je ne suis pas beau, bête ». Et il était très intelligent. Donc c'est un peu dommage tout ça. Hein. Alors vous disiez « comment leur redonner l'estime de soi ?» Je pense qu'il faut déjà, nous, avoir en nous cette confiance en l'autre. C'est passager. On va les aider. Il y a quelque chose à faire. Et il faut essayer d'éveiller leur créativité. C'est primordial, ça. Parce que chacun, chaque être est unique. Et chaque être a une difficulté particulière dans son écriture, même s'il y a des généralités qu'on découvre. Hein. Ce que je viens de dire, c'est des généralités. Mais chacun a sa manière. Et un fantaisiste, il a le droit d'être fantaisiste. Et il faut respecter cette fantaisie. Donc ne pas lui demander d'écrire comme quelqu'un qui est un matheux, par exemple, qui aime bien que soit tout égal, etc. Donc là, il faut respecter la personne et il faut lui faire confiance. Je crois qu'il faut les aimer si on veut qu'ils s'aiment, les estimer si on veut qu'ils s'estiment.
Un autre exemple dans votre livre, tous les enfants que vous citez ont un point commun, en tout cas la plupart ont un point commun. Vous parlez d'élèves, à chaque fois je parle d'élèves, à chaque fois vous parlez...
Oui, mais c'est très bien. C'est très bien.
Vous parlez d'enfants à chaque fois surdoués, ou en tout cas très intelligents. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'au contraire, effectivement, il y a une correspondance entre des enfants brillants et une écriture mal assurée ? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas ?
Pas forcément, mais il y a au début d'apprentissage... Les enfants très intelligents ont une pensée très rapide. Alors comme ils pensent très rapidement, ils sont gênés par cette main qui ne va pas aussi vite que la pensée. Donc ça peut être au départ une gêne. Et c'est pour ça que les enfants qui sont précoces, intelligents, etc., qui ont cette rapidité de pensée, ils auraient besoin qu'on les aide sur le plan de la motricité graphique de façon très personnelle. Mais en tout cas, il faut surtout... bien reconnaître leur intelligence. Je crois que c'est important.
Alors, je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien, Denise Berthet. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Malle de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Denise Berthet. Dans cette deuxième partie d'émission, Denise Berthet, venons-en au diagnostic. Quels sont les éléments qui vont vous alerter pour poser le diagnostic sur un enfant qui va vous être confié ?
Quand un enfant arrive, il arrive soit envoyé par les enseignants, soit envoyé par un pédiatre. Et j'essaye de voir, selon l'âge, les petits-enfants. Je regarde ceux de 6 ans, par exemple. Je fais faire des tests tout simples pour voir s'ils possèdent bien l'ensemble des formes et comment il en est sur le plan perceptif au moteur, comment il en est au niveau de la posture. La posture, c'est très, très important. Comment elle se tient. Et quand je suis avec des plus grands, c'est aussi la posture qui correspond au stade de développement dont j'ai parlé. Je vais essayer aussi de voir si, sur cette écriture, avant de faire écrire, il s'est greffé des problèmes psychologiques, des problèmes psychosomatiques, relationnels, disons-nous. Et alors, pour ça, je fais passer plusieurs tests. Le test de l'arbre, que j'ai travaillé avec René Stora pendant des années et que les enfants aiment beaucoup faire. On n'a pas de réticence quand il s'agit de faire dessiner des arbres. Je fais le test de Tria, ce sont des formes aussi. L'enfant continue, je donne une forme et il continue. Et après seulement, je leur dis, maintenant on va regarder l'écriture. Parce qu'il faut d'abord les mettre à l'aise avant d'aller sur cette écriture qui souvent... les crispes. Alors nous commençons, et j'ai donc une phrase, pour les petits c'est le petit cheval gambade, et pour les autres c'est je respire le doux parfum des fleurs. Donc là, on a regardé à quel âge les enfants, ce qui pouvait, la vitesse qui correspondait à chaque âge d'enfant, et je vois s'ils sont en retard, beaucoup, s'ils ont un retard d'écriture, c'est là vraiment, ils ont besoin d'être aidés. Hein.
Donc c'est à la vitesse, la vitesse, premier élément.
La vitesse est un élément très important, ils ne peuvent pas suivre. Ensuite, il y a comment l'écriture peut être lisible. Puis les formes, si elle n'est pas lisible, c'est sûr qu'elle pose problème. Et ça, c'est plus pour les plus grands. Voilà. Puis on regarde, à ce moment-là, après, je fais un diagnostic plus approfondi pour savoir, selon chaque enfant, ce qui va être choisi de préférence, d'après ce qu'ils ont écrit, mais aussi d'après les éléments relationnels qui vont être indiqués dans l'interprétation des différents tests. Et puis la relation que j'ai avec cet enfant. Là, on va parler, la fois d'après, il va revenir, et on va parler de ce que j'ai vu, et il va me dire, il va pouvoir, lui, exprimer sa plainte. Parce que ça, c'est important.
Est-ce que votre métier de graphothérapeute, est-ce qu'il faut être psychologue pour être graphologue ?
Il faut faire de la psychologie. Ça, on ne peut pas être graphologue si on n'a pas étudié la psychologie. Ça fait partie de l'examen de la Société française de graphologie que j'ai passé. Donc, il y a l'étude de Freud, l'étude de Jung et puis la psychopathologie. Donc, ça, c'est absolument sûr qu'il faut avoir des connaissances psychologiques pour s'adresser à un enfant et puis voir. En plus, quand on fait passer des tests qui sont des tests projectifs, il faut les avoir étudiés de façon précise sur le plan de l'interprétation psychologique.
Alors revenons à ces enfants. Vous recevez des jeunes, mais aussi des enfants plus âgés. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup d'enfants qui auraient besoin d'une aide telle que vous l'apportez ?
Je crois qu'il y a malheureusement de plus en plus d'enfants et de jeunes qui ont des difficultés d'écriture.
Pourquoi ?
Alors, je pense qu'il y a malheureusement plusieurs facteurs, mais il y en a une hypothèse que je pose, c'est que si on fait écrire les enfants trop tôt, on crée des crispations. Et les enfants qui écrivent à 5 ans, c'est trop tôt. Mais dernièrement, je me trouvais, à la suite d'une conférence, je vendais quelques livres, et il y a une personne qui vient me parler et je voyais qu'elle était très au courant de ce que je faisais. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, vous êtes enseignante ? Elle me dit, non, je suis médecin. Et alors je lui ai dit, vous voyez, on fait écrire aux enfants à 5 ans. Elle me dit, même plus maintenant. Maintenant, on fait davantage, même à 3 ans. Il y en a un qui est venu me voir dernièrement et on lui faisait écrire son prénom et il s'appelait Alexandre. Donc, on a cru qu'il avait des problèmes. Donc, évidemment, on crée des problèmes, là, dans cette situation. Bon, alors, je pense aussi, et je parle dans mon dernier livre de l'ordinateur, je me suis trouvée dernièrement dans le train avec un jeune qui avait son ordinateur à côté de lui et nous parlons, nous engageons la conversation sur l'écriture et je lui dis, les livres que j'écrivais, je parlais de l'ordinateur, je lui dis « qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors il me dit « oh ben écoutez, c'est quand même bien plus pratique qu'un ordinateur, parce que c'est plus lisible. » Alors j'ai été interrogée, je me suis demandé où en était son écriture. Et alors il m'a dit, je lui dis « parce que vous avez du mal à vous relire ?»« Ah oui, un peu. » Bon. Alors je lui dis en orthographe « oh ben je corrige mes fautes. » Ah ben je lui dis « c'est bien, si vous corrigez vos fautes, c'est bien. » Et puis, au bout d'un moment, nous étions... il faisait des études de... Il avait passé son bac l'année dernière et il faisait des études d'informatique, donc il était à la faculté. Et alors, il me dit, vous savez, le dernier devoir que j'ai rendu, j'avais 40 fautes. Alors, je suis surprise, je lui dis, mais l'ordinateur n'a pas corrigé. Il ne les a pas toutes corrigées. Alors, je me dis, il a vraiment fait beaucoup de fautes. Et il faut savoir que écriture, lecture et orthographe sont liés. Donc ce garçon qui faisait des fautes d'orthographe, et d'ailleurs tout de suite après, il m'a dit « mais vous aidez les gens ?» Donc il y avait tout d'un coup une demande, et ça il ne l'avait jamais perçu, il ne le savait pas. Donc il y en a sûrement beaucoup dont l'orthographe est le résultat d'un travail qui n'a pas été fait au niveau de l'écriture, qui vient enregistrer le geste de façon beaucoup plus approfondie, parce que quand on écrit sur un clavier, c'est un mouvement de haut en bas. Tandis que quand on écrit avec la main, c'est un mouvement dans les quatre points cardinaux. Et puis, il y a une grande diversité des formes. Donc, les formes associées d'un mot sont déjà très diverses. Elles vont se graver en les voyant, mais elles vont se graver encore bien plus en écrivant. Parce que le geste graphique, donc on a à ce moment-là le mouvement, donc la sensation kinesthésique et l'écriture elle-même, la trace. Et là, on a une chance d'avoir une orthographe meilleure. Voilà. Donc je crains que l'ordinateur dans ce domaine, qui est très attirant par ailleurs, ne soit pas qu'un complément, il risque d'être une illusion pour justement l'orthographe, donc, c'est-à-dire le langage écrit.
Est-ce que l'écriture se modèle aussi en fonction de l'habitude ? J'imagine qu'une personne qui écrit de moins en moins souvent oui. va avoir une écriture qui va se modifier.
C'est le cas des gens qui tapent sur l'ordinateur. Il y a des parents d'élèves qui m'ont dit, vous savez, moi maintenant, j'ai vraiment perdu l'habitude d'écrire. S'ils ne continuent pas à écrire, ça se perd.
Alors, si vous le voulez bien, on va avancer dans l'émission. Vous avez eu la gentillesse de venir avec un CD qui figure dans votre livre « Le graphisme en chantant ». Donc, il y a des comptines qui sont associées à votre livre sur un CD. On va pouvoir écouter trois comptines. Et puis, vous allez pouvoir nous donner les exercices qui sont associés à ces comptines avec ces séries que l'on peut attribuer à ces comptines. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la première qui est « J'aime la galette », comptine que tout le monde connaît.
J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 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 Tra-la-la-la-la-la-la-la-la.
Denise Berthet, on vient d'écouter « J'aime la galette ». Alors, à partir de cette musique, comment vous allez travailler avec un enfant?
Voilà, alors la ronde dansée, là, elle est très utilisée. Les enfants sont en cercle, vous voyez, le cercle, hein, c'est important de vivre le cercle. En nombre pair, ils se donnent la main. J'aime la galette, ils avancent et se rejoignent au centre, à petits pas de course, donc position en avant. Savez-vous comment ils reculent toujours en reformant le cercle? Quand elle est bien faite, certains enfants enfoncent comment un. Et après, on a les tralala. Les coupes se prennent par le bras et tournent. Tourne à gauche, tourne à droite. Donc gauche, droite. Il y a l'avantage de la latéralité. Et puis il y a des jeux de doigts qui sont faits à partir de là. Les poings tenus verticalement sont fermés. Le pouce est à l'intérieur, le pouce sort puis rentre. Donc c'est un travail du pouce et c'est très important le travail du pouce. Il a d'ailleurs une représentation importante au niveau du cerveau. Ce qui veut dire que le pouce, il faut beaucoup l'entraîner. Donc voilà, puis au dernier tralala, on secoue les mains, c'est-à-dire c'est un travail de détente.
Donc il y a à la fois le travail des mains et également le travail du corps. Vous nous en parliez voilà. au cours de l'émission de l'importance de la posture, de s'installer, de prendre ses aises, d'avoir le bras comme ça qui va s'ouvrir et d'avoir une certaine détente dans le corps pour écrire.
Et puis alors l'avantage de la ronde, c'est que ceux qui sont pas très dégourdis vont être entraînés par ceux qui, eux, sont en avance. Donc ils ne seront pas gênés, ils vont être aidés par leurs petits camarades. Alors, il y a aussi le jeu avec les sons dans J'aime la galette. Il y a les sons que et que, qui sont deux explosives. Donc, elles vont être travaillées dans le chant et après, en même temps.
Alors, on va écouter un deuxième extrait. Vous allez pouvoir nous le commenter. Puis après, il y en aura un troisième rapidement. Alors, le troisième extrait, c'est V'là le vitrier.
V'là le vitrier, v'là le vitrier, v'là le vitrier qui passe. V'là le vitrier, v'là le vitrier, v'là le vitrier passé.
Quels sont les exercices que vous allez pouvoir faire avec cet extrait, Denise Berthet?
Les jeux de mots. On va faire travailler le v'là, v'là, v'là. Ça, c'est important pour délier la langue. Et les enfants, en même temps, ils tapent des pieds. Ça peut être dans la boue, pour justement faire v'là. Ensuite, donc, dextérité de la langue. Et puis après, le mime, taper alternativement du pied gauche, puis du pied droit. En même temps, frapper le poing gauche sur la main droite ouverte. À la deuxième partie du chant, inverser le poing droit sur la main gauche et garder le frapper du pied. Donc ça, vous voyez, c'est des exercices qui permettent d'être à l'aise, de ne pas confondre leurs pieds et leurs mains, hein, de bien associer. Exercice de doigts, alors là, c'est des pichenettes. V'là le vitrier, donc des pichenettes, des deux mains, voilà.
Quand on vous écoute, on a l'impression qu'avec la graphologie, il y a aussi l'orthophonie qui va de pair.
C'est le langage écrit, tout le langage écrit, donc la voix. C'est pour ça qu'il faut bien, pour le langage écrit, bien utiliser à la fois ce qui est dit, le mot, et puis ce qui est écrit.
L'importance de comprendre ce qu'on dit avant de pouvoir le transmettre à l'écrit.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous dites très justement, comprendre, c'est pour ça qu'il y a du vocabulaire. Alors j'explique, qu'est-ce que c'est qu'un vitrier? Parce que maintenant, on n'est pas obligé de savoir. Donc vous voyez, tout ça, il y a toujours l'explication. Et les enfants, quand ils miment une fiche, ils la font intelligemment dans la mesure où ils savent ce qu'ils miment. Ça, dans la mesure où ils ont compris. Donc vous voyez, c'est là la préparation à la lecture aussi. Comprendre un texte, acquérir un vocabulaire, savoir délier la langue, les doigts et le corps.
Associer, donc c'est tout un ensemble. On va écouter le troisième et dernier extrait, Pomme de Renette, Pomme d'Api. Et puis vous allez pouvoir nous le commenter rapidement avant que l'on termine cette émission.
Pomme de Renette et Pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et Pomme d'Api, tapis, tapis gris.
Denise Berthet, sur ce dernier exemple, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer comme exercice?
Alors là,
à ces enfants?
Dans cet exercice, on a l'organisation de la page, parce qu'on a deux pommes, une première pomme, pomme de Renette, et puis un petit trait qui va vers le haut, et pomme d'Api, et puis on a le rectangle. On avait le triangle avec le vitrier, et maintenant on a une partie du rectangle. Donc là, on a des formes associées et qui sont organisées dans la page. Donc au niveau de l'organisation, c'est important. Il y a encore des jeux de mains. Les enfants l'aiment beaucoup. Donc l'intérêt ludique est très, très important. Et donc, il y a cet entraînement des lettres rondes. Donc, et puis, une habileté, parce qu'il faut aller en même temps que le chant. Et le rythme qui oblige les enfants à ne pas rester dans la perfection. Parce qu'il y en a, ils veulent que ce soit bien fait, c'est lent. Non, non, il faut aller vite. Ça les oblige à lâcher. Ça les oblige à se faire confiance, en plus. Donc, à aller plus vite et à être à l'aise dans des gestes différenciés. Parce qu'on a deux ronds, puis on a un rectangle.
Alors, ces exercices de chant ne sont qu'une partie des exercices. Hein. Vous faites bien d'autres choses. Nous ne pouvons malheureusement pas parler de tout et puis l'émission se termine. Simplement, quand vous avez un enfant, vous estimez qu'il y a besoin de combien de séances pour arriver à le remettre sur les rails?
On ne peut jamais le dire parce qu'on ne sait pas comment l'enfant va évoluer, le plaisir qu'il a à venir ou à ne pas venir. Hein. Au départ, il faut engager, pour certains, il faut engager la motivation. Donc, et puis pour d'autres, ils sont motivés et on descend dans des couches plus profondes. Donc, ils ont envie de continuer et il y a besoin de continuer parce qu'il y a le côté psychosomatique.
Est-ce que vous avez été confronté à des échecs?
Alors, les échecs, je dirais qu'on avance toujours quand on fait ce genre de travail. Même si on n'a pas obtenu une écriture esthétique, ce n'est pas ça qui compte. On n'est pas dans l'esthétique, on est dans la justesse du geste. C'est ça qu'on vise. Quand il y a eu des échecs, je pense à un garçon où il a fallu arrêter. C'est un garçon qui avait 14 ans. Et ce garçon, il droguait. Mais les parents se droguaient. Alors, ils étaient venus là, ils voulaient que je fasse quelque chose qui était un miracle, en fait. Alors qu'il se droguait. Je pense que quand on est à l'écoute de l'enfant, qu'on a l'estime de l'enfant, qu'on a confiance en lui, on arrive toujours, moi je pense. Parce que j'ai aidé des enfants des cas très difficiles, même des cas neurologiques importants. Il y avait eu des essais précédemment, mais ça n'avait pas marché. Moi-même, je doutais beaucoup de moi au départ, et je me suis dit, je n'ai pas le droit de douter de moi. Ce garçon, il a besoin d'être aidé. Il avait 15 ans, et il avait eu beaucoup d'aide, hein, puisqu'il avait un problème neurologique important. Et il tenait sa main droite pour écrire. Il tenait avec la main gauche, tenait sa main droite. Il y est arrivé. Il a pressé son bac, etc. Donc, moi, j'aime mieux être optimiste.
Dernière question, Denise Berthet. Est-ce que l'on peut travestir notre écriture ?
Bien sûr, puisqu'il y a des escrocs qui essayent sur l'écriture. C'est très, très difficile parce que si on analyse le trait, on peut reconnaître la personne. Mais bon, il y a des escrocs qui sont très forts, hein, mais c'est très, très difficile. Hein.
Je pense aux études qui peuvent être faites, les études graphologiques, lorsque l'on passe un entretien d'embauche. Alors, on s'implique de manière très gracieuse pour avoir des pleins et des déliés. Mais est-ce que, malgré cette application, on peut quand même déceler les émotions, le caractère d'une personne ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, si on fait une analyse approfondie, oui, ça demande une analyse approfondie qui se fait, qui demande un temps. Mais pour les CV, là aussi, hein, y en a qui sont beaucoup pénalisés en ce moment parce qu'on met de côté des écritures qui ne sont pas très lisibles et qui dévalorisent la personne.
Eh bien, je vous remercie, Denise Berthet, pour toutes ces explications. Je vais redonner les titres de vos ouvrages qui nous ont permis de réaliser cette émission. Le premier, Le graphisme enchantant, dans lequel on peut trouver un CD. On a écouté quelques extraits. Est paru chez Belin en 2008, et puis toujours chez Belin, Leur écriture les trahit, comment les aider dans leur parcours scolaire, également chez Belin, publié en 2010. Merci de nous avoir rendu visite, et puis alors, je l'espère à bientôt, pour de prochaines émissions. Au revoir.
Merci beaucoup en tout cas.